Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h04, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. C'est la dernière partie de l'émission en compagnie de Fred Hermel, notre journaliste et écrivain, l'entrepreneuse Élise Goldfarb, l'économiste Pierre Rondeau et Grégoire Morelli qui prend la place aujourd'hui de Charles Magnin. On parle vacances dans un instant dans Estelle Midi. Est-ce que vous seriez prêt à passer des vacances à la montagne? En tout cas, c'est la grande tendance aujourd'hui. Le tu préfères, 14h25, tu préfères bouteille en verre ou canette? Ah, pas facile ce choix. Il y aura RMC Santé à 14h30. On va se demander si les objets connectés sont vraiment bons pour notre santé. Et puis on terminera avec les immanquables de Grégoire aujourd'hui.
Eh oui.
Et donc
ah, je me suis fait avoir sur ce coup-là.
Ouais, oui.
Eh bien, on va parler de pas mal de choses dans les immanquables. La nouvelle chanson de Céline Dion, déjà, pour commencer.
Ah, ça, très bon
ça
choix,
fait toujours
Grégoire.
Plaisir. On va également parler du Nutri-Score. Non, ça, on en a déjà parlé. On va parler surtout. Excusez-moi. On va parler du Tour de France. Ah, on va parler de la hausse des ventes des voitures électriques. Beaucoup de choses dans les immanquables aujourd'hui.
Ah, et on terminera à 17h. finalement. Très bons immanquables, Grégoire. Ce son, vous le connaissez, c'est celui, bien sûr, des départs en vacances. Et oui, les embouteillages, les klaxons. Et oui, top départ des congés d'été aujourd'hui. Beaucoup de monde sur les routes en direction des stations balnéaires, bien sûr. Mais, et ça c'est plus nouveau, en direction également des massifs montagneux. Un Français sur cinq a choisi la montagne pour ses vacances d'été en 2026. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement, Grégoire?
Après les fortes chaleurs, les Français ils veulent déjà profiter de leurs vacances avec une idée en tête, la recherche de fraîcheur. Mais cet engouement pour les sommets hors hiver, il peut aussi s'expliquer par le rejet du surtourisme qui devient une préoccupation majeure pour les voyageurs. C'est même en deuxième position parmi les éléments susceptibles de freiner le choix d'une destination. Et c'est connu, hein, en été, la plage et le littoral, c'est souvent bondé. Mais ce choix, il est aussi motivé par l'essor du tourisme sportif. Selon une étude, 39% des Français jugent très important de pouvoir pratiquer des activités sportives pendant leurs vacances. Et c'est vrai qu'en montagne, eh bien, des activités, ça ne manque pas.
Alors, seriez-vous prêt à partir à la montagne pour vos vacances d'été? Pierre Rondeau, vous qui cherchez la fraîcheur?
Alors moi, je vais en Bretagne, donc je la trouve assez plus facilement que dans le sud. Mais vous avez raison, même si on a des températures caniculaires régulièrement en Ille-et-Vilaine. Mais je comprends les arguments de chercher la fraîcheur et vouloir des vacances sportives. J'y souscris totalement. Et moi, le premier, je veux des vacances fraîches avec du sport. Mais je préfère quand même la mer à la montagne. J'avais fait il y a 3 ans, j'étais bivouaqué l'été dans les Pyrénées. Mmh. Et je veux dire que la montagne, même si c'est la montagne, il fait très chaud la journée et froid la nuit.
Mais voilà, oui, t'as quand même de la fraîcheur la nuit, tu dors bien, quoi,
non,
en fait, c'est ça.
Bivouaquer en pensant très naïvement
on
que.
On est obligé de bivouaquer.
Alors moi j'avais fait parce que vacances sportives, tu pars en randonnée dans les Pyrénées, on avait eu chaud toute la journée et la nuit sous la tente, j'avais eu froid mais comme pas possible. Donc là il y a un écart entre rechercher de la fraîcheur et là vraiment j'avais eu très 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 froid. Pour vous dire à quel point, l'année d'après, je me suis acheté un sac de couchage spécial grand froid résistant à moins 15 degrés.
Ah mais vous y êtes retourné alors?
Oui, j'y suis retourné mais équipé.
Ah.
Et effectivement, la montagne il fait chaud la journée. Et très froid la nuit.
D'accord, mais enfin, ça vous a plu ou pas?
Je préfère la mer. Je comprends le concept de la montagne, mais au choix, j'irai dans le Finistère ou en Côte d'Armor chercher la fraîcheur bretonne que la montagne.
Alors c'est vrai que jusqu'à il y a peu, le premier critère pour les vacances c'était la chaleur. On avait envie qu'il fasse chaud. Ouais. Maintenant, après les épisodes de canicule, c'est la fraîcheur. Est-ce que c'est aussi votre truc, Élise Goldfarb? Est-ce que vous recherchez aujourd'hui la fraîcheur?
J'avoue que je la recherche pas vraiment. Personnellement,
c'est marrant, je m'y attendais.
Maintenant, pour les vacances, j'ai envie d'aller sur des îles désertes, mais je suis partie tous les étés de ma vie en vacances à la montagne, moi.
Bon,
parce que, étant d'origine alsacienne, mes grands-parents vivaient au pied des Vosges.
D'accord.
Et donc, je passais mes vacances d'été dans les Vosges et je trouvais ça trop bien. On se baladait en montagne. Bon, après, les Vosges, c'est pas non plus des montagnes très hautes, hein, je vais pas vous mentir.
Oui,
une piste noire dans les Vosges, c'est une piste verte.
Bah, les pistes noires, de toute façon, en été, on en fait plus.
Oui. Non, mais c'est un kiff. Tu vas dans des fermes auberges, tu te balades dans des fermes auberges, tu manges des tartes à la myrtille, ça sent bon, tu fais des cueillettes, on cueillait des framboises, des myrtilles, c'est mes meilleurs souvenirs. Et mes parents nous ont souvent amenés, on allait à Morzine l'été. Trop beau aussi, par exemple, on faisait de la luche d'été à Morzine, c'est trop sympa. Il y a plein de trucs à faire, en fait. Il y a plein de cours d'eau où tu peux aller te baigner. La plupart des hôtels ont des piscines, les résidences aussi. Et tu fais des balades, tu vas caresser des chèvres, tu fais du quad. Franchement, moi, j'ai passé mes meilleurs étés. Et tu vois, on est allé aussi. Bah parce que en fait c'est une super destination pour moi à faire en famille.
D'accord.
Mais c'est vrai que quand tu veux faire la teuf, que t'es jeune et que t'as envie de t'éclater quoi.
C'est vrai que
t'as plus tendance à aller faire la full moon en Thaïlande ou à aller à Cannes.
C'est vrai que c'est pas le lieu où tu fais la teuf.
Bah il y a des jeunes dans les Vosges qui peuvent s'amuser hein.
Oui, mais tu t'amuses pas. Enfin je veux dire
mais les jeunes des Vosges l'été ils descendent hein.
Non mais tu t'amuses pas jusqu'à 3h du. Enfin je veux dire tu fais pas la fête jusqu'à 3h du matin. Genre en plein air quoi. Enfin c'est plus rare quoi.
Voilà. J'ai passé des vacances d'été dans les montagnes du Monténégro. Avec la jeunesse des montagnes.
Mais donc, ça n'a rien à voir.
Non, mais dans les montagnes, hein, je parle pas sur le littoral. Dans les montagnes du Monténégro, les jeunes s'amusent. Hein. Il y avait des rêves parties, il y avait des boîtes et autres. C'était.
Mais je vais vous dire, ne donnez pas de mauvaises habitudes aux gens ou de mauvaises idées. Vous n'êtes pas obligé de faire des rêves parties en montagne.
J'ai un petit tips, moi. Là où Courchevel est totalement inaccessible en hiver parce qu'il n'y a que des Russes et des Dubaïotes et que c'est extrêmement cher, eh bien, l'été. Je l'ai fait en vacances d'été. C'est absolument sublime.
Mais c'est cher quand
ça
même.
Ça coûte beaucoup moins cher que l'hiver.
Ah bah encore heureux. Encore heureux. Il y a des chambres à 20 000 euros la nuit.
C'est vraiment magnifique. Et tu as des chemins de randonnée qui sont à couper le souffle.
Pardon. Fred Hermel. Oui, parce que j'avais vraiment dire Hermel.
Oui.
Je faisais un petit mix. Fred Hermel, la montagne l'été, la montagne, ça vous gagne ou pas?
Oui. Alors moi, j'aime la mer. Oui. J'aime la mer, j'aime la plage. Je connais très peu la Montagne française, mais très bien en Espagne parce que j'ai une filleule espagnole dont la famille, c'est la famille très proche, qui est des Asturies. Les Asturies, il y a de très belles montagnes. C'est vraiment, et ça reste très très sauvage. Donc j'ai connu là-bas la montagne l'hiver et j'ai connu la montagne l'été. C'est vrai qu'il y a quelque chose de merveilleux, mais il faut que ça reste sauvage. C'est-à-dire que la montagne, je vois, il y a des photos, par exemple, qu'on voit dans le studio pour ceux qui voient, où on voit quand même des immeubles. C'est moins l'hiver quand pourquoi pas, mais l'été quand tout est découvert, quand tout est vert, t'as envie qu'il y ait rien, quoi, qu'il y ait que des chalets et pas forcément des immeubles.
Souvent,
de
tu t'écartes un peu, il y a rien. Hein.
Oui, oui mais tu vois, mais les villes à la montagne,
tu montes 50 mètres et a priori, il n'y aura plus rien.
Je préfère je préfère ça, mais bien sûr, c'est une alternative et de toute façon.
Vous cherchez la fraîcheur cette année, vous, Fred?
Je cherche surtout le repos.
Ah oui.
Voilà. Et donc, je sais pas. Mais non. Voilà, la montagne, de toute façon, ça va être une destination de plus en plus prisée.
C'est sûr.
Pour une raison très simple, c'est que il y aura moins de neige, donc les stations vont devoir se réadapter et être rentable toute l'année, donc ça va bien s'améliorer. Donc oui, automatiquement, ça va devenir une destination fétiche. Et en plus, en France, on a quand même les Alpes, les Pyrénées, les Vosges,
le Jura.
Le Jura, les volcans d'Auvergne. Enfin, je veux dire, on est bien placé à ce niveau-là, quoi.
Alors, nous sommes avec Alexandre qui nous a appelé au 32-16 depuis le Pouliguen, très jolie commune de Loire-Atlantique. Bonjour, Alexandre.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Attendez Alexandre, quand on habite au Pouliguen, à côté de la Baule, a priori on va pas en vacances à la montagne, on reste chez soi.
Ben oui, j'habite au pays des vacances, c'est incroyable, mais on a eu la picouse avec mon épouse et l'enfant, on a eu la picouse pour la montagne l'hiver, la montagne au printemps, la montagne à la Toussaint et maintenant la montagne en été. Ouais.
Je comprends. Ah carrément, mais qu'est-ce que vous aimez à la montagne Alexandre?
Bah, le calme, la sérénité, les beaux paysages, voilà. Puis ça nous change de tous nos paysages de la côte. Donc forcément, on vient chercher un peu ce qu'on n'a pas chez nous. Donc voilà. Et puis on vient aussi, on est pas mal.
Ah. Manifestement, il n'y a pas de réseau. Bon, on va rappeler Alexandre. Oui, ça manque parfois un peu de réseau.
Oui, on est en zone blanche.
il y a quelques zones blanches. On va rappeler Alexandre qui est restaurateur au Pouliguen dans un instant. Mais on a des messages. Alors, est-ce qu'on part à la montagne cette année du côté de nos téléspectateurs et nos auditeurs?
Bien sûr, il y a Nathalie. Elle dit même que ça fera la deuxième année qu'elle part en montagne. Et franchement, c'est nettement plus agréable, dit-elle, que partir dans les endroits où il fait chaud. Et il y a plein d'activités à faire en plus. Elle nous raconte.
Oui,
un autre auditeur qui habite Montpellier, lui, passe depuis très longtemps ses vacances dans les Alpes. Il fait des randonnées, il cherche la fraîcheur et surtout fuir l'invasion des touristes. Donc,
je crois qu'il allait dire des moustiques.
Ah, non,
c'est vrai qu'il y a aussi moins de moustiques. Hein,
il y a aussi moins de moustiques, c'est vrai qu'on peut le noter. Et puis ça rejoint un peu une des idées qu'on disait, vacances à la montagne cette année. Tellement d'activités à faire, rando ou encore parapente pour Joris.
Alors, on a retrouvé Alexandre. Alexandre, vous êtes déjà à la montagne là?
Non, je prends la route parce que il y a mon fils qui passe son bac français, donc il termine dans quelques minutes.
Ouh là là.
On prend la route et je rejoins mon épouse qui est déjà là-bas depuis une semaine.
Voilà. Ah oui, d'accord. Et vous passez toutes vos vacances à la montagne, alors, Alexandre ?
Non. En fait, on passe un petit moment en famille avant de faire la saison, parce que je suis restaurateur sur le pont du Pouliguen. Ah oui. Et du coup, on va se créer des petits moments parce que là, pendant 6 ou 7 semaines, on va bosser comme des fous. Donc là, on se régénère et on va passer un bon moment tous ensemble en famille à la montagne. Voilà.
Eh ben, écoutez, profitez bien, Alexandre, et bonnes vacances à vous et à votre famille. C'est vrai que quand on est restaurateur, a priori, en juillet, en août, on bosse. Évidemment, surtout du côté de La Baule. Notre invité sur ce débat, c'est Vangelis Panayotis, président du cabinet d'études MKG Consulting. Bonjour Vangelis.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Vangelis, est-ce que la montagne, c'est la nouvelle mer, on va dire? C'est-à-dire que, est-ce que dans 10 ans, on ira tous à la montagne en vacances?
Non, c'est pas la nouvelle mer, mais par contre, c'est une tendance très forte. Vous savez, on est toujours un anglicisme à toute tendance. On parle de coolcation. Coolcation, c'est les vacances au frais. Et c'est en train de devenir une tendance qui est très forte. De la même façon, vous avez de plus en plus de stations de ski moyenne et haute montagne qui sont en train de s'adapter pour être ouverts quasiment toute saison, mais en tout cas deux saisons avec l'été, avec un sujet qui est très important. Vous savez, le coût des remontées mécaniques, ça coûte assez cher de remettre en marche tous ces systèmes qui justement vont permettre de monter pour aller faire du parapente, faire du vélo, enfin des descentes en vélo, enfin toutes les activités qu'on peut faire en été à la montagne. Et là, c'est en train de devenir rentable. Donc ça va être une accélération, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'animations, de choses qui va être possible de faire sur de plus en plus de stations. Donc clairement, on voit que ça répond à une demande qui est en train de grandir. Et c'est vrai, alors, je veux dire à titre personnel, comme vous l'avez noté par mon nom qui est d'origine suédoise, moi j'aime beaucoup la mer par nature. Et c'est vrai qu'avec le Covid, j'ai découvert la montagne et on y va tous les étés maintenant depuis 2020. Quoi.
Et c'est vraiment moins cher, Vangelis, par rapport à la mer?
Bah oui, pour l'instant c'est moins cher et il y a quelques petites exceptions. Si vous allez à Chamonix, vous avez quasiment autant de monde l'été que l'hiver. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on va commencer à y croiser des gens du golf, des gens des Brésiliens. Enfin, c'est en train de devenir une tendance pour les stations plutôt UP, hein, qui devient très fort, y compris l'été, parce qu'en fait, on va faire des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. On redécouvre, ou en tout cas, on découvre des activités qui sont en train d'être de plus en plus plébiscitées parce que c'est des vraies alternatives d'aller faire de la luge d'été, d'aller se balader dans les massifs. C'est super. Par rapport à cette habitude qu'on a depuis les années 80 du transat et de la plage.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas les uns sur les autres en montagne. Tu fais quelques dizaines de mètres et tout d'un coup tu te retrouves tout seul. Est-ce que vous avez des petits spots à nous conseiller, Vangelis?
Bah non, il faut les garder secrets, les spots. Ça reste sympathique. Non, en fait, il faut pas hésiter à se perdre. Il y a énormément de randonnées. Il y a évidemment des sports extrêmes et pour ceux que ça intéresse, il faut le faire. Mais pour le reste, je pense que cette tendance de justement du coolcation, de prendre le temps. Alors, on connaît les succès des pèlerinages avec Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais là aussi, en fait, il faut s'abandonner dans la marche en forêt. On connaît nos amis japonais qui font des câlins aux arbres, qui ont besoin de marcher dans la nature ou autre. On redécouvre tout un tas de nouvelles tendances et franchement, il n'y a pas de bon spot. Vous pouvez le faire partout. Vous avez même des stations qui sont très fréquentées pendant l'été et vous sortez un peu des sentiers battus et ça y est, vous êtes tout seul.
Et on y mange très très bien, dire, et pour beaucoup moins cher qu'à la mer. Merci beaucoup, Vangelis Panayotis, et bonnes vacances à vous. Allez, on va terminer avec Erwan, qui nous appelle de Vannes, dans le Morbihan, très belle ville, aussi qui est commercial. Bonjour Erwan.
Bonjour Estelle.
Erwan, vacances à la mer ou à la montagne quand on habite Vannes?
Alors quand on habite Vannes, vacances à la montagne depuis une dizaine d'années.
Ah d'accord, et pourquoi donc Erwan?
Parce que la mer, j'ai vécu 20 ans sur Saint-Malo, une vingtaine d'années là aujourd'hui sur Vannes. Et les plages, malgré qu'on ait les plus belles plages de France en Bretagne, vous pouvez pas dire le contraire. C'est surpeuplé et hormis ce côté, alors la Bretagne, je vais priser pour mon département, est une très belle région, mais s'allonger sur sa serviette sur la plage, il y a très peu d'activités et quand nous allons en montagne, moi je fais du trail à bon niveau, à haut niveau et ça permet de faire des randonnées et de prendre une bouffée d'oxygène beaucoup plus que sur nos sentiers bretons. Quoi.
Oh, il y a le GR34 en Bretagne. On peut faire des randonnées en Bretagne.
Oui, bah, bien sûr. Oui, mais lui, il fait du trail à haut niveau. Il n'est pas comme nous.
Le GR34, c'est physique.
Oui, mais nous, on se satisfait du GR34. Mais je pense qu'Arwan, il est d'un autre niveau.
Oui. Après, c'est le GR34 du côté du Finistère. Je vous l'accorde. Non, mais sans parler de du côté randonnée, la montagne est beaucoup plus je trouve beaucoup plus attractive quand nous avons des enfants, on s'épanouit beaucoup plus, je trouve, qu'au bord de mer. Après voilà, c'est que mon avis personnel.
Mais et Erwan, normalement quand vous êtes passé des vacances en Bretagne, vous n'allez pas chercher la fraîcheur, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas pour ça que vous allez en montagne.
Ah non, la fraîcheur, non. Comme je disais à votre standardiste, là, j'arrive de Chamonix. J'étais à Chamonix la semaine dernière, donc qui se situe à 1000 mètres d'altitude. Chamonix même, j'ai eu 36-38 toute la semaine.
Oui, après, c'était canicule pour tout le monde la semaine dernière.
Oui, la semaine dernière, c'était canicule pour tout le monde, mais je suis monté à 2400 mètres au Brévent, donc qui est au-dessus de Chamonix, et j'avais 28 degrés. Aujourd'hui, la montagne, il y a un peu plus de fraîcheur parce qu'il y a un air un peu plus frais, mais il fait quand même relativement chaud. Enfin, quand vous êtes, faut vraiment aller chercher des altitudes hautes, comme l'Alpe d'Huez ou autre, à 1800 mètres. Mais sinon, le climat est un petit peu plus frais, mais il fait quand même relativement chaud, je trouve.
Bah écoutez, merci beaucoup Erwan. Voilà, Erwan qui est breton et qui va passer ses vacances à la montagne. Vraie tendance aujourd'hui. Alors on vous a posé la question. Est-ce que justement vous seriez prêt à partir en vacances à la montagne et à changer vos habitudes?
Eh ben, vous êtes 61% pour aller à la montagne, pour y passer l'été. 30% sont contre, donc c'est quand même assez conséquent. On a ces messages aussi assez amusants. Laure de Marseille qui nous dit qu'elle passe une semaine à la mer, une semaine à la montagne. La montagne, c'est génial, dit-elle, pour les températures, le monde et le nombre d'activités. On s'ennuie moins à la montagne, selon elle. Et ce message que je trouve vraiment très amusant. Je vais dans les Vosges chaque année, c'est magnifique, reposant et sportif. Mais ne venez pas trop, s'il vous plaît, car il y a de plus en plus de monde, nous dit Michael.
Ben oui, magnifique.
Il risque d'y en avoir de plus en plus.
Voilà. C'est la montagne à la côte. Dans un instant, on aura Aurel Gage, notre médecin urgentiste. On parlera des objets connectés. Sont-ils vraiment bons pour la santé? Mais tout de suite, 14h21, c'est l'heure du Tu préfères.
RMC, Estelle Midi. Tu préfères.
On parle boisson aujourd'hui dans le Tu préfères. Tu préfères bouteille en verre ou canette? Élise Goldfarb.
Bouteille en verre, les gars.
Ah bon?
Imbattable. Un bon coca zéro, hyper frais, dans une bouteille en verre. C'est ça, c'est même une belle eau gazeuse, bouteille en verre. Les canettes,
quoi?
Non, c'est non.
Mais si, le coca zéro est beaucoup plus frais dans les mini canettes.
Non mais attention, moi au quotidien, vu que c'est beaucoup plus dur de trouver des bouteilles en verre, je suis sous canette, elles sont super.
Je suis sous canette
à gogo. Mais quand j'ai l'occasion, quand je vois dans des restos on m'amène la bouteille en verre,
Mais le goût est vraiment différent.
Oui. Il y a un truc qui est pas pareil. Mais bon, j'ai découvert que les bouteilles en verre.
L'eau est vraiment différente. C'est vraiment une eau, c'est incroyable.
Mais j'ai découvert que les bouteilles en verre, c'était beaucoup plus polluant que les canettes.
Oui, c'est beaucoup plus lourd surtout.
Donc j'ai le seum.
Fred Hermel.
Bouteille aussi. Bah oui. C'est beaucoup.
Bah oui.
Parce que
mais
j'essaierai d'argumenter après.
Ouais. Bah oui.
Ah, c'est okay, bon, on va pas faire une thèse non plus, mais.
Bah on pourrait faire une thèse.
Bah oui, alors moi je sais, une fois j'étais
en Argentine. C'est très snob, moi je trouve la bouteille.
Non, mais en fait, on peut se couper.
De dire, oh, j'aime la bouteille.
Par exemple, quand vous allez en Argentine, dans chaque canette, il vous marque, il est recommandé de ne pas boire directement à la canette, parce que c'est vrai qu'on peut se couper avec le truc.
Non, enfin, les gens sont pas débiles. Non, mais quand on arrive là.
Tu me demandes que j'argumente avec des données. Voilà,
on peut se couper la langue de la canette.
Non, oui, mais moi, je fais ça. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de boire un coca avec une canette qu'avec une bouteille qu'avec une canette.
Ah non.
Et souvent, il y a le truc du pipi de souris, là. Vous savez, la légende qu'il y a souvent
des chevilles.
Ouais, c'est vrai.
Bah, tu l'essuies. J'essuie toujours avec ma manche.
Ouais, mais.
Bah, ta manche, ça se trouve, elle a aussi traîné dans des endroits sombres.
Hein, non, je ne crois pas, non.
On sait pas où tu traînes, Estelle.
Mais attendez, pour pas avancer le débat, moi, j'ai une question. Est-ce que vous baladez avec un ouvre-bouteille dans votre poche?
Mais je connais des gens, moi, qui savent l'ouvrir avec leurs dents.
Mais quelle horreur.
Est-ce que tout le monde fume et tout le monde a un briquet dans sa poche? Par contre, la canette, on l'a, on ouvre très facilement. La bouteille, il faut un ouvre-bouteille ou un briquet, mais tout le monde n'a pas de briquet sur soi. Et les dents, je vais pas me lancer là-dedans.
Oui, non, c'est pas recommandé.
Voilà, la canette, c'est en termes de facilité de dégustation. Et quand on dit, parce que j'ai entendu en régie, on a eu ce débat, quelqu'un m'a dit, dont je tairai le nom, que oui, le goût est totalement différent.
Mais c'est un peu différent.
Arrêtez, le coca, ça reste du coca, le Pepsi, ça reste terrasse du Pepsi, oui. Point.
Je ne te permets pas de dire ça.
Si, mais ça, c'est toujours c'est les gens qui se disent ah, mais moi, je ne bois que dans des bouteilles en verre.
Tu sais, c'est comme c'est les gens qui.
Bah, c'est beaucoup plus classe au resto.
Mais pourquoi
un
c'est
resto
classe
dans une bouteille que t'as une bouteille d'eau minérale en verre, c'est quand même plus classe que
si on amène. Oui, personne ne va te mettre au resto une cristalline.
Non,
c'est la Châteldon, c'est la belle bouteille en verre. L'eau des rois. S'il mais te plaît.
C'est, voilà, c'est incroyable.
C'est vrai qu'elle est très bonne.
Alors que la canette, en plus, t'as le plaisir de l'écraser à la
oui,
fin.
Oui, aussi, oui.
Parce que quand tu fais du tri, ça prend moins de place dans la poubelle. C'est un, mais non, mais voilà, c'est,
oui,
c'est
mais moi, je recycle, madame.
Bah, ah oui, moi aussi. Ma canette, je la recycle.
Ouais,
évidemment.
Enfin, mais c'est quand même beaucoup.
Je la mets dans la poubelle jaune.
C'est de l'aluminium, ça se recycle.
Bah, évidemment, bien sûr. Alors, est-ce qu'on est plutôt bouteille en verre ou canette, Grégoire?
Eh bien, on est à 78% en bouteille en verre et à 22% en canette. Donc, il y a ouais. clairement pas poteau, il se range du côté
des bons vivants. Je suis très, très déçue. Je comprends pas ce sondage. Dans un instant, on parlera objets connectés avec Aurel Gage. La plupart des Français ont une montre connectée, une balance connectée. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Eh bien, on viendra en débattre avec Aurel Gage. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Objet par objet. 14h29, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nous sommes vendredi et le vendredi, on parle santé avec notre médecin urgentiste Aurel Gage.
Estelle Midi.
RMC Santé.
Et aujourd'hui, Aurel, on va parler des objets connectés. Un tiers des Français ont une montre connectée. Un Français sur cinq a une balance connectée. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On va commencer parce que... Les vacances d'été sont là avec les balances connectées. À quoi ça sert en fait?
Alors, les balances connectées, l'idée c'est que c'est donc d'abord une balance, donc ça va vous donner votre poids. Et la seconde chose, ça va vous donner votre indice de masse graisseuse, votre pourcentage de masse grasse. Bon, concernant la fonction balance, ça marche très bien. Ça a été vérifié.
Non, mais. Vu le prix qu'on la paye. Merci.
Et l'idée en fait derrière pour mesurer la masse grasse, c'est en gros, on va envoyer un courant électrique. C'est d'ailleurs pour ça que ça renvoie un courant électrique et ça mesure le temps pour que l'électricité passe. C'est pour ça que d'ailleurs que la balance vous demande toujours votre taille pour être capable de dire, bah, ça a passé. C'est en temps de secondes. Et donc, eh ben, ça va évaluer la masse grasse parce que l'électricité va plus lentement dans le gras que dans l'eau. Alors, honnêtement, la valeur qu'on vous donne, généralement, elle a tendance à sous-estimer la masse grasse. Donc, c'est pas fou pour ça. C'est-à-dire que la valeur en elle-même n'a pas grand intérêt. Par contre, c'est hyper reproductible. C'est-à-dire que pour le suivi, si vous voulez avoir une idée de votre indice de masse grasse, comment il évolue, c'est très bien. En fait, on a comparé avec des scanners.
Excusez-moi, pardon. Qui a besoin? Moi, j'ai une balance connectée. Et je regarde ma masse grasse tous les jours, qui varie. C'est incroyable. Donc, autant vous dire que je ne la regarde plus parce que c'est manifestement, c'est pas fiable. Mais ça me sert à rien, en vrai. Je l'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, mais ça me sert à rien.
Alors, déjà, c'est ce que vous avez dit sur le fait que ça varie énormément. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a énormément de règles, même pour la reproductibilité, pour le suivi. Il faut que ce soit au même moment de la journée, après le même repas. Même vis-à-vis
des même repas tous les jours
même avec les cycles menstruels, la température corporelle, ça peut changer et les différents moments.
C'est pratique.
Mais en théorie, si vous le faites le matin à jeun à la même heure, ça permet un petit peu d'avoir une idée. Bon, par contre, est-ce que ce qui fait ça, c'est plus pour le suivi? Parce qu'au final, le poids, malheureusement, à certains moments, le poids, c'est plus intéressant de savoir si c'est du gras que vous avez perdu ou de la masse musculaire, parce que la masse musculaire, c'est quelque chose de plus sain. C'est pour ça d'ailleurs que je regardais avec insistance Pierre, parce que je sais que Pierre fait beaucoup de musculation. Généralement, les gens qui font de la musculation vont pas mal s'intéresser à leur poids et ensuite derrière à leur indice de masse grasse.
Oui, mais moi, ma balance, moi, elle me donne aussi la météo. Autant vous dire que si vous voulez, j'ai qu'à regarder par la fenêtre. Vous voyez, enfin, il y a quand même des petites fonctions ma balance me donne la météo. Alors, je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, certes, mais enfin, je veux dire, ça sert pas.
Ça, j'ai rien prévu là.
Non, mais il y a quand même des gadgets. Mais si on est une personne normale, qui n'a pas forcément de problème de poids, est-ce qu'on a intérêt à acheter une balance connectée?
Très franchement, moi je dirais juste regardez votre poids, c'est plus quand vous êtes sportif et que vous avez vraiment envie d'avoir des objectifs, etc. Tant qu'on ne va pas dans l'anxiété à vraiment avoir des objectifs d'indice de masse grasse. Mais si votre objectif c'est vraiment d'avoir entre guillemets un corps sain, vous n'avez pas besoin d'une balance connectée.
Oui, on a un déjà, miroir.
Ouais, bah exactement, c'est-à-dire que miroir plus le poids, c'est largement suffisant. C'est-à-dire que l'indice de masse grasse, à la base, c'est un truc qu'on utilisait chez les sportifs. Hein, c'est pour leur suivi, pour savoir quand ils doivent être sous une catégorie de poids, par exemple pour les boxeurs, comment on fait pour réduire leur poids pour qu'ils gardent la même masse musculaire. ça concerne pas tout le monde, franchement. Bon,
c'est pas tout à fait pour nous. Alors, on va parler maintenant des montres connectées. Un tiers des Français ont une montre connectée, mais c'est vrai que la plupart du temps, on ne connaît pas 10% des fonctions de notre montre connectée. À quoi ça peut réellement nous servir pour notre santé ?
Eh ben, vous avez raison sur le fait qu'il y a plein de fonctions, et au final, il y en a certaines qui sont extrêmement intéressantes. On va commencer par une qui, pour le coup, paraît assez anecdotique, alors qu'au final, ça vous permet d'éviter d'aller aux urgences, c'est que ça vous permet de marcher plus. Parce que les gens qui regardent leur nombre de pas, en moyenne, les gens font 1800 pas de plus par jour. C'est-à-dire que le fait de regarder leur capteur, moi au début, je vous avoue que, par exemple, je pense à Estelle qui me montre sa montre en montrant le nombre de pas. Eh ben, je m'étais dit que c'est tout le monde ne fait pas ça. En fait, à partir du moment où vous avez une valeur, vous la regardez très souvent.
Et ça
vous
permet... Moi, je reviens sur le téléphone. Bah, moi, je reviens sur le téléphone.
Mais donc, c'est moins fiable.
Oui, enfin, mais c'est quand même.
C'est moins fiable, mais au moins, c'est déjà bien. Ça permet de se dire, je vais faire mes 10 000 pas. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça leur permet de se rendre compte quand ils ne sont pas à cet objectif-là.
Exactement.
Ensuite, il y a une deuxième fonction qui, là, pour le coup, a vraiment été extrêmement utile pour nous, les urgentistes. C'est la fréquence, pas la fréquence cardiaque, mais le fait qu'on peut avoir un rythme. Vous savez, il y a des gens parfois qui disent, j'ai eu des palpitations. Ils se retrouvent aux urgences et au moment où ils sont aux urgences, bah, on regarde le tracé du cœur. Et le tracé est normal. Ça veut pas dire qu'il était normal aussi quand vous avez eu les palpitations. Ça veut juste dire qu'au moment où je vous vois, il est normal. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas ce tracé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez ressenti ces palpitations-là. Et c'est là où ces montres sont géniales. Pour le coup, c'est que ça a vraiment une utilité. C'est j'ai des palpitations, je déclenche le tracé de l'électrocardiogramme. Et quand vous allez aux urgences, on le voit, on fait... Oula, va falloir peut-être voir le cardiologue à distance, on va vous mettre peut-être traitement, etc.
D'accord.
C'est un très bon outil de dépistage à ce niveau-là. Alors par contre, attention, ça détecte pas les infarctus. C'est-à-dire que ça vous permet juste de vous dire comment le cœur bat, ça vous donne idée de son rythme. C'est-à-dire le rythme du cœur, vous imaginez, ça vous permet de voir quand il fait n'importe quoi. Mais par contre, ça vous donne pas exactement une cartographie. Vous avez vu, je le fais.
Tu fais vraiment bien.
Une cartographie du cœur pour voir s'il y a des zones qui nécrosent, ça on peut pas le voir. Mais par contre, pour les troubles du rythme, c'est très très bien.
Et c'est bien aussi pour les personnes âgées, les montres connectées.
Bah, parce que vous avez une fonction, alors une fonction qui est la plus utile pour les secouristes, mais les gens se retrouvent après aux urgences pour ça, c'est les alertes de chute. Parce que les alertes de chute, en fait, quand vous allez tomber au sol, eh bien, malheureusement, vous avez certaines personnes âgées qui peuvent rester des heures, voire 24 heures, et ils se retrouvent aux urgences. Il faut savoir que plus vous restez longtemps au sol, plus vous avez des risques de déshydratation, des risques d'inhalation, des risques même de ce qu'on appelle de rhabdomyolyse, c'est-à-dire les muscles qui fondent et qui vont relarguer du potassium dans le sang, donc c'est vraiment risqué. Et donc, c'est pour ça que ces capteurs-là sont très utiles. Alors, vous avez aussi des boîtes externes qui peuvent proposer ça, parce que le problème de ces capteurs-là, c'est qu'ils vont vous appeler vous, et parfois, vous n'êtes pas forcément disponible. Sinon, vous avez des petites montres avec des capteurs de chute, où là, par contre, c'est un abonnement de 20 euros par mois, où c'est une boîte externe qui va s'en charger. Et puis, vous allez avoir une autre fonction, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est pour les gens qui ont pour le sommeil. Et pour chercher l'apnée du sommeil, pour ceux qui ronflent et qui se disent peut-être que j'ai de l'apnée du sommeil. Alors c'est assez intéressant parce qu'aux États-Unis ils ont validé deux appareils pour le dépistage. C'est l'Apple Watch et la Smartwatch, la Samsung Watch, enfin en gros la Smartwatch de chez Samsung. Ces deux-là ont été validés. Alors attention, ça fait pas le diagnostic, mais ça permet en général lorsque ça vous dit il y a un problème dans votre sommeil, bah c'est quand même pratique, ça vous permet d'aller voir votre médecin et dire peut-être que j'ai de l'apnée du sommeil.
Et très rapidement, Aurèle, ça vaut quoi les bagues connectées dont on a beaucoup parlé ces derniers mois ?
Alors les bagues connectées. Je vous donne mon opinion de médecin là-dessus. En fait, ça vous donne deux paramètres où c'est bien, c'est la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, mais ça vous donne pas de tracé. Ça fait des évaluations de plus pour vous dire votre quantité. La seule chose où pour moi c'est pertinent, c'est la quantité de sommeil. Ça vous dit même pas si vous avez troubles du sommeil, ça vous dit combien d'heures vous avez dormi.
Oui, on va s'en passer.
Se rendre compte que c'est beaucoup d'algorithmiques, c'est-à-dire qu'ils ont que deux paramètres. Avec ces deux paramètres, ils essaient derrière d'évaluer. Il y a aussi la température corporelle. En gros, ils peuvent dire la saturation, la fréquence cardiaque et la température corporelle. Et avec ces trois variables, ils essaient de deviner plein de choses. Mais en général, quand on a que trois variables pour deviner des choses, imaginez qu'il y a une grosse marge d'erreur.
Donc, a priori, si on veut acheter un objet connecté, c'est la montre.
C'est la montre, exactement. Et parfois, le capteur de chute pour si vraiment vous avez votre grand-mère qui est un peu fatiguée, qui ne sait pas utiliser une montre connectée, prenez un capteur de chute.
Merci beaucoup, Aurèle Gage, chronique à retrouver sur l'appli RMC. Merci beaucoup. Tous les vendredis à 14h30 dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables de Grégoire. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, voici les immanquables de Grégoire.
RMC. RMC Estelle Midi.
Les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence, Grégoire, avec la pétition du jour.
Couper la clim à Yann Barthès, c'est le titre de cette pétition un poil saugrenu qui a déjà récolté presque 30 000 signatures. C'est une réponse aux propos de l'animateur de l'émission Quotidien qui, le 23 juin dernier, avait déclaré que tout le monde avait chaud de la même manière. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou votre voisin, disait-il. Mais ce qui a surtout fait réagir, ce sont ses propos sur les personnes qui vivent sous les toits, des personnes qui, selon Yann Barthès, se sentent autorisés à parler plus fort sur la chaleur en concluant, je cite, « tout le monde s'en fout ».
Pierre Rondeau, ça vous fait rire, cette pétition? Alors, vous en avez marre qu'il y ait des pétitions pour tout?
Alors déjà, oui, ça me fait rire, et oui, j'en ai marre qu'il y ait des pétitions sur tout.
C'est vrai, c'est
là, quand même, si les gens veulent s'insurger contre les propos de Yann Barthès, qui ne regardent pas son émission, tout simplement, qui a un boycott de Quotidien, voilà, ils regardent pas, ça fait pas d'audience, merci, au revoir. Là, il faut quand même aussi rappeler un élément important. Sur les plateaux de télé, souvent les téléspectateurs vont critiquer en disant « oui, ils sont climatisés ». C'est aussi pour des raisons techniques que les studios sont climatisés. Même ici, si on arrête la clim, c'est pas contre nous, c'est pas pour nous, c'est aussi pour tout le matériel qu'il y a autour de nous, pour les caméras, pour les lampes, pour tout ça. C'est une question aussi de technicité. Et la clim, ici, la clim, c'est pas pour le confort de Yann Barthès, c'est pour le confort des équipements de la télévision.
Après, il y a eu des détournements qui ont été faits, qui étaient très drôles hier, où on voyait, il y avait une photo avec Yann Barthès sortant d'un Lidl avec un climatiseur. Bon, voilà.
Qui vous dit que c'est le Lia?
Il a toujours la même veste, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Cette espèce de veste en moumoute qu'il avait mis devant la commission. Donc bon, voilà, il y a quand même un indice. Qui met une veste en moumoute en ce moment sous 35 degrés? Bon, voilà, il y a quand même des indices concordants. Ça vous fait marrer ou pas, Fred?
En fait, tout dépend du ton de la pétition. Si c'est un truc humoristique, c'est drôle. Si c'est violent, non. Voilà, tout est là. Mais j'ai l'impression qu'on est dans de l'humour.
Hier.
Ça va.
Je suis allée boire des verres dans le Marais et j'ai vu écrit, tagué, oui bien sûr, j'ai vu tagué sur les murs Yann Barthès FDP.
D'accord.
Qui veut dire.
Oui, on a
le concept.
Mais ça m'a énervé. En fait, on peut se calmer là. Le mec, on dirait que c'est qui? C'est Bolloré? C'est, il détruit le monde.
Pas quel rapport avec Bolloré?
Non, mais quel est.
Je sais pas.
C'est, on parle de Yann Barthès comme s'il avait un impact concret sur la santé des Français.
C'est une tête de gondole, immédiatement important.
Moi, ça commence à me rendre dingue. C'est comme la fille qui a fait une bourde en parlant de l'accouchement de France Piron. Il faut qu'on arrête de détruire des gens sur la place publique parce qu'ils disent une bourde une fois. Je veux dire, Yann Barthès, il y a quand même des rares émissions où on tape autant sur la gauche que sur la droite. C'est équilibré. C'est une des rares émissions où tu te rends pas dingue en la regardant
une
aujourd'hui.
Une bourde, c'est quand même écrit en amont. Ça a quand même été réfléchi en amont.
Mais il aurait pu dire derrière.
Mais c'est une blague. Attendez, les gars.
Mais c'était réfléchi, c'est pas de l'improvisation.
Mais non,
mais c'est une blague.
Mais c'est écrit en amont.
On est génération Charlie Hebdo. Je veux dire, si aujourd'hui, parce que tu fais une blague sur la clim, on te tague sur les murs en disant que tu mérites de mourir et que ta mère.
L'insulte que tu as décrite n'était pas une
blague. Mais c'est grave. Mais moi, je ne veux pas vivre dans un pays où tu n'as pas le droit à l'erreur. Et si tu dis un truc pas bien une fois parce que ton auteur, il a fait une blague un peu lourde, ou même toi, tu trouves ça drôle sur le moment et en fait, c'est pas drôle, et bah, t'es détruit. J'aime pas. C'est horrible. Personne ne mérite ce genre de violence.
T'as vu un tag dans le Marais, ça y est, sa carrière est détruite.
Je veux dire, si t'as quelqu'un qui activement détruit le monde, ou est patron de Total Energy, je veux bien qu'on ait.
On est le patron de Total Energy,
je veux bien qu'on émette des critiques, qu'on dise voilà, tu as une responsabilité. Yann Barthès qui fait une blague sur la clim, j'en ai rien à faire. Ça va, on se calme.
Mais ça, on est d'accord.
On va pas le détruire, le mec.
On est d'accord.
Non, mais
si c'est fait
que de
l'humour.
Je vois des TikTok de gens qui.
Là, on te parle de
répondre
la pétition.
Répondre à une blague par une blague, c'est excellent.
Là, ça, c'est bien.
C'est excellent.
Mais après, les insultes, non. Mais là, c'est une pétition rigolote.
Mais
voilà,
non, mais les vidéos, les TikTok qui pètent des câbles contre lui, je suis en mode, les gars.
C'est pas le seul. Aujourd'hui, toutes les personnalités publiques en France, t'as le moindre petit dérapage, le moindre.
Donc, on renoue le dialogue, l'empathie, la nuance.
Demain, on en parlera plus.
Oui, j'ai de l'ambition.
Oui, c'est.
Have a dream.
On n'est pas parti pour ça, Élise. L'événement du jour.
J-1 avant le départ du Tour de France. Première étape de la Grande Boucle qui partira de Barcelone. Ce sera bien sûr à suivre sur RMC avec notre consultant Richard Viran qui est pour cette 113e édition. Un coureur va être particulièrement scruté. Paul Sexas, bien sûr. La pépite française de 19 ans qui participe à son premier Tour de France. Il rêve de podium et compte bien rivaliser avec Tadej Pogacar.
Est-ce qu'on en fait trop autour de Paul Sexas, premier Tour de France, c'est le plus jeune coureur depuis 1937, équipe Décathlon CMA CGM, Fred, on a envie qu'il fasse quelque chose,
mais bien sûr.
Faut qu'on se calme aussi.
Bah, non, moi j'ai pas envie de me calmer. Ah, si. Mais attends, moi la dernière fois qu'il y avait un Français qui faisait des trucs sur le Tour, j'avais des cheveux, j'avais pas beaucoup de barbe.
Il y a 18 ans, le manque crée ce désir
de voir. Parce que le truc, c'est qu'il est très fort.
Oui.
Donc on sait qu'il y aura au moins des étapes où il va pouvoir regarder Pogacar dans les yeux.
Peut-être.
Et rien que pour ces moments-là, bah t'as envie de le voir.
Bien, mais qu'on ait tous envie de le voir, mais que là, t'entendes les Vélix.
Les Vélix, c'est les footix du vélo.
Ouais. Et qui commence à dire, il va gagner le Tour et tout. Peut-être qu'il va gagner le Tour. Et non, moi, franchement,
il va gagner un jour, peut-être pas cette année.
Mais on sait
qu'il va passer Pogacar. Ouais. Cette année, il va être à je sais pas combien de minutes. L'année prochaine, il sera tout petit. Et peut-être que dans 3 ans, il sera
podium. Mais peut-être déjà à rêver qu'il gagne le Tour. Attendons,
on serait ravis.
Mais bien sûr. Moi, je voudrais une grande étape de montagne.
Oui, voilà.
Maillot blanc, une grande étape de montagne.
Ils disent entre Pogacar, Vingegaard et qui disent que Paul Sexas va remporter le Tour, on parle vraiment de Vélix. À ce niveau-là, on est vraiment sur du haut level. Oui, il va faire une perf. Oui, il est. Il faut quand même aussi rappeler que la France, en termes de pays formateur de sportifs de haut niveau, on parle de Paul Sexas, on a Léon Marchand, on a Antoine Dupont, on a Victor Wembanyama, on a Mbappé, on a un nombre de sportifs capables de performer à très haut niveau. Moi, je suis vraiment très impressionné et vraiment la France à ce niveau-là.
Et dans tous les sports.
Dans tous les sports.
Souvent on critique,
une nation sportive. En termes de sport de très haut niveau. Oui, sauf en tennis.
Bah, ouais.
Mais sport de très haut niveau.
Moïse Kouamé, je peux te dire.
Peut-être, ouais.
Oui, mais. Non, mais ça d'accord. Mais en tennis, voilà.
Yannick
Noah, 83.
On verra plus vite un Français gagner le Tour qu'un Français gagner Roland Garros.
C'est possible. Vous regardez le Tour de France ou pas, Elise Goffin?
Je vous avoue que je suis même pas Vélix à ce stade. Je sais même pas ce
que c'est extraordinaire, le Tour de France.
Je suis jamais tombée dedans. J'ai jamais kiffé. Ça m'ennuie. J'aime pas leur tenue. J'aime pas.
Qu'est-ce qu'on en a à faire? De leur tenue.
Bah tu sais, pour moi ça joue beaucoup.
Ah bon, d'accord. Moi je ne pars pas à l'étranger pour les vacances d'été pour pouvoir suivre le Tour, quoi.
Je vais essayer de regarder le Tour cette année.
Oui, mais moins bien. Moi je mets commentaires.
La plus regardée au monde.
Oui, mais je suis attachée à je veux mes commentaires. C'est vrai que sur la tablette je pourrais, mais je n'y ai même pas pensé.
Et vous savez comment on reconnaît un véritable amateur de Tour?
Non.
C'est celui qui sur les étapes de plat se réveille naturellement de la sieste à un quart d'heure de l'arrivée.
Oui.
meilleure sieste.
Les meilleures siestes, bien sûr. Évidemment.
Et là où c'est génial, c'est quand t'as les grandes étapes de montagne où ça commence sur Eurosport, c'est vers 11h15, et là, t'envoies tout le monde à la plage, dégagé, et là, t'es tout seul. Tranquille, tu te fais livrer une pizza, t'as même pas envie de cuisiner. Et pendant toute la journée, tu sais que de 11h, il peut faire beau et tout, de 11h à 17h15.
Les étapes de montagne pendant les vacances, effectivement, je vais pas à la plage.
Moi, je coche mes jours dans l'agenda. Je sais qu'il y a des jours, faut pas me parler, en fait. Ouais. Je n'irai pas à la plage, je n'irai pas boire l'apéro. Je reste chez moi. Dans la pénombre. Tour de France, c'est parti. L'été, c'est ça. C'est le barbecue et le Tour de France. Allez, on va passer aux ventes du jour.
Celles des voitures électriques. Les immatriculations pour ces véhicules ont atteint le seuil de 30% en France, selon le patron de Stellantis. Et à l'en croire, ce n'est qu'un début. Il s'attend à ce que ce chiffre progresse encore dans les prochains mois. Les automobilistes français qui se convertissent donc de plus en plus à l'électrique, et pas seulement avec des voitures neuves. Les ventes d'occasion aussi connaissent une forte hausse. Bref, l'électrique se porte de mieux en mieux.
Ben voilà, on y est. Vous voyez, on n'arrêtait pas de dire sur ce plateau l'électrique, on n'y arrivera pas. Regardez Fred Hermel, vous qui décriez souvent l'électrique, on y est. Des voitures françaises, monsieur.
Oui, mais moi je trouve ça trop cher, mais c'est normal avec la pénurie d'essence qu'il y a eu, enfin la pénurie, avec
la hausse des prix
liée à la guerre au Moyen-Orient. Oui, automatiquement ça a eu un impact. Mais on verra dans quelques semaines.
On peut s'en réjouir.
Je ne sais pas. Si c'est quand c'est des voitures françaises, oui. Quand c'est que des BYD et les voitures chinoises, ben non.
Oui, mais les voitures chinoises, elles vont monter des usines en Europe pour ne pas payer de malus.
Oui,
voilà, elles vont investir. Souvenez-vous, après, des voitures japonaises, Toyota, par exemple, a massivement investi en France. Espérons que ce soit la même chose.
C'est le seul moyen de sauver le secteur de l'automobile, parce que c'est vrai que si on n'a pas l'électrique, le thermique est en chute libre. Là, on met en avant effectivement l'augmentation, parce qu'au total, général, au global, il y a une augmentation de 11% de mémoire du nombre de voitures neuves vendues, mais l'augmentation est surtout tirée par l'électrique. C'est grâce à l'électrique qu'on arrive à encore vendre des voitures en France, des voitures neuves, parce qu'autrement, le thermique se porte très mal, et surtout les marques occidentales.
C'est ça, et on est très fort, nous, la France, pour les petites voitures électriques. On est moins fort sur les grosses voitures.
Renault était précurseur à l'époque.
Et la Renault 5 est géniale aussi. Allez, on termine avec la chanson du jour.
Bonjour, pardon, merci, vous l'aurez entendu. Hein.
Oh là là.
Un morceau que Céline Dion a sorti cette nuit, une musique au titre entêtant dès la première écoute, je vous assure. Avec pour thème l'amour plus fort que tout, les épreuves, les peines de cœur et de corps, les doutes, et qui évoque surtout la résilience dont la chanteuse a fait preuve ces dernières années. Céline Dion qui fait monter encore un peu plus la pression avant son retour sur scène à Paris au mois de septembre.
Mais c'est tellement du Céline Dion, on y est quoi.
Bah, j'ai envie de faire un commentaire parce que
quoi, Pierre Rondeau,
je sais que j'aime vraiment Céline Dion et Céline Dion a fait des super à l'époque avec Jean-Jacques Goldman. Là, pardon, j'ai l'impression que ça a été fait par une IA.
Mais moi aussi, j'ai cette sensation.
On est d'accord.
Et pareil pour la chanson d'avant, dans la prod. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre un truc. Il y a, même si je l'aime à mourir, j'ai dépensé des milliers pour assister à un concert.
C'est Francis Cabrel.
Oui, je l'aime à mourir. D'accord. Mais
pour que tu aimes encore.
Il y a un truc
Goldman.
Un peu IA bizarre.
On est d'accord.
Pas du tout. Dans la prod.
Si, je trouve que dans la prod, même dans les paroles, au revoir, bonjour, merci.
Les producteurs de musique.
Ça fait très. Pardon,
c'est Quincy Jones là.
Mais pour avoir adoré les albums des années 90 de Céline Dion, là en l'écoutant,
ça paye.
La chanson précédente n'était pas terrible. Celle-là, elle a quelque chose.
Celle-là, j'ai l'impression
c'est la vraie Céline.
Du bon Goldman ou quoi ?
Non, c'est pour que tu aimes encore. Ça, c'est du bon Goldman.
Écoutez, je ne sais pas, mais on connaît ça.
On dirait que c'est.
Mais en tout cas, c'est Céline Dion, là.
C'est Gemini qui l'a.
Ça se trouve, elle a dit ça, elle a dit écris-moi une chanson.
Dans le style de
Céline Dion, comme d'habitude. Elle a dit excuse-moi,
fais-moi une chanson.
Allez, c'est la fin d'Estelle Midi. Merci à tous de nous avoir suivis. On est tout de suite avec Christophe Cessieux parce que le Tour de France, l'intégral Tour, commence aujourd'hui. Le Tour de France, ça commence demain. Bonjour, Christophe.
Salut Estelle, salut à tous.
C'est un plaisir, Christophe, de vous retrouver un tour. Ce tour s'annonce tellement passionnant.
Ah oui, bah écoute, il est pas mal. C'est vrai que sur le papier comme ça, c'est magnifique. On a pour la première fois depuis une bonne vingtaine d'années un Français peut-être en mesure de l'emporter cette année. En tous les cas, de jouer le jeu avec les meilleurs, avec les Pogacar, avec les Vingegaard. Il s'appelle Paul Sexas. Il a 19 ans et on espère évidemment qu'il va nous enchanter durant ces 3 semaines. On va tout vous présenter aujourd'hui puisque Vincent est déjà parti en vacances. Donc nous on est là avec toute l'équipe de l'Intégral Tour et on est comme ça pendant 3 semaines en direct de Barcelone. Il fait un temps magnifique. La plage nous tend les bras, la colline de Montjuïc où ont eu lieu les Jeux Olympiques en 92 et juste derrière nous. Tout est installé pour vivre un Tour de France magnifique.
Vous savez que vous êtes mon petit bonheur de l'été, Christophe Cessieux. Voilà. Dès que je prends la voiture, j'écoute l'intégral Tour et on est bien. Et c'est vraiment une émission formidable que j'adore. Voilà, donc je vous le redis, Christophe. Tiens, un petit pronostic quand même, Christophe, Pogacar tout de même.
Bah oui, malheureusement, je pense que Pogacar est vraiment au-dessus du lot. Mais bon, il y a quand même cette incertitude de Paul Sexas. On va voir s'il est capable. On rappelle que durant le printemps, il s'est accroché quand même à la roue du Slovène dans les classiques. Maintenant, il n'a jamais fait un tour de 3 semaines. Donc c'est la grande incertitude à savoir s'il va pouvoir tenir le même rythme durant 3 semaines. Savoir si Pogacar n'est pas encore un peu plus fort que les années précédentes. Et si Vingegaard aura récupéré, lui qui a remporté le Giro il y a 5 semaines seulement. Donc voilà, ce sont les 3 grands favoris, mais il y aura plein d'autres enjeux évidemment, avec des Français qui sont là et qui sont capables peut-être dès demain de prendre un maillot jaune. Ce ne sera pas pour Paul Sexas, mais peut-être pour un autre coureur. Donc voilà, il va se passer plein de choses, ça va durer 3 semaines, ça va être magnifique.
Et ça va être passionnant. Merci beaucoup Christophe Cessieux, l'intégral Tour tout de suite. Et nous on se retrouve lundi, midi 14h, parce que justement ce sera le Tour de France de 14h à 15h. Salut à tous et bon week-end sur RMC.